Bien, bonjour et bienvenue au nom de l'Association pour le développement des études chinois ouvrières, donc à tout le monde ici à l'ambassade d'Estonie. L'ambassade d'Estonie que, bien entendu, nous remercions très très chaleureusement pour son hospitalité. Nous avons ici une belle salle et cela nous donne la possibilité donc de nous rassembler. Ce n'est pas tout à fait un hasard que nous nous sommes adressés à l'ambassade d'Estonie pour accueillir cet événement, cette première journée commis, tout d'abord parce que il y a en Estonie une très forte école, j'ai envie d'appeler cela une école d'études des commis, qui s'est développée ces dernières années. Alors d'une part, Indrek Jens, qui est présent ici, a fait longtemps qu'elle est seule, a fait sa thèse sur les commis, mais en même temps, depuis une dizaine d'années, le professeur d'ethnologie de Tartu, Hartlett, fait ses travaux de terrain en pays commis et il a entraîné ses étudiants. Et nous avons donc là aujourd'hui un groupe de 4-5 personnes qui se spécialisent sur les commis. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne occasion de les rassembler ici, d'autant que ce n'est pas non plus tout à fait un hasard que nous commencions cette série de journées finno-ougriennes par des journées commis. En effet, nous avons en France deux personnes qui travaillent sur des sujets commis, qui se sont passionnées pour des sujets commis. Yves Abri, que vous allez écouter tout à l'heure, et Sébastien Cagnoli, qui est en train de faire une thèse. Alors, ce ne sont en fait pas tout à fait les premières initiatives consacrées à un peuple finno-ougrien à l'automne. Puisque l'année dernière, nous avons eu la visite de 4 poètes oudmourtes qui sont venus de leur propre initiative, mais nous ont demandé de leur organiser des lectures, des rencontres, c'était le pen club de Moussine, et d'une certaine manière, c'est leur venue à nous a amené à faire de facto des journées oudmourtes, une semaine avec un certain nombre, avec 3 rencontres à Paris avec des poètes oudmourtes, et ce n'était pas tout à fait hasard non plus, puisque Jean-Luc Moreau, depuis 1967, depuis la publication de son article sur la littérature oudmourte qui a fait fureur en Oudmourcy. Jean-Luc rigole parce qu'il a été 10 ans plus tard attaqué en tant que nationaliste oudmourte pour son article. Donc tout le monde n'a pas cet honneur. Peut-être vraiment un nationaliste oudmourte parmi nous. Et il a été réhabilité. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, oh, pour nous, Jean-Luc Moreau, c'est comme Lénine. C'était un compliment. Et que moi-même j'ai travaillé également sur les oudmourtes. Donc c'était peut-être pas forcément tout à fait un hasard que les oudmourtes aient pensé eux-mêmes venir dans un endroit où ils se savaient bien accueillis. Pour aujourd'hui, nous avions évidemment programmé la présence d'une chercheuse commis, Marina Fedina, responsable du centre finno-ougrien du centre de recherche finno-ougrien auprès de l'université de Sevenkar. Et Marina avait accepté avec enthousiasme. Et puis, il y a une semaine, elle nous a envoyé un petit mot en disant « Le recteur ne m'autorise pas à venir. » Les choses se passent encore de la sorte en Russie, où c'est le recteur qui décide d'autoriser ou non ces chercheurs à se rendre à l'étranger. Je soupçonne que la jalousie était pour quelque chose. Paris reste une destination très prisée et peut-être en dû inviter le recteur, mais qui lui-même n'est pas commis et ne s'intéresse pas aux choses commises. Donc, nous n'aurons pas aujourd'hui de commis parmi nous. Il n'en reste pas moins que Marina est en pensée avec nous, elle l'a répété encore hier dans une lettre à Sébastien, et qu'elle nous a envoyé son texte. Donc, elle sera présente, vous entendrez sa parole, et elle nous a demandé avec insistance de vous faire avoir ses coordonnées pour que vous lui fassiez part de vos remarques et de vos questions. Donc elle se sent aujourd'hui très frustrée de ne pas être parmi nous et elle souhaiterait avoir des marques de sa présence ici. Alors nous allons avoir quelques séances avec, disons, un fil directeur. Et nous allons commencer par la langue, et c'est Imre Kietz qui va nous parler de la langue commis, de l'histoire finalement de la langue commis et de la création d'une langue commis littéraire. Ensuite, donc, nous écouterons ce que Marina Felina avait à nous dire sur la langue comme moyen d'expression de la vision du monde des commis, dont je vous ferai part de sa communication. Nous aurons ensuite une séance consacrée à la littérature, on peut dire, et ce sont les Français qui se spécialisent sur la littérature commis. Yves Avril nous parlera d'Ivan Kouratov. Et en fait, oui, Sébastien Kennedy parlera également d'Ivan Kouratov, mais sous une autre perspective, puisqu'il nous parlera de l'opéra qui lui a été consacré. Et Sébastien n'a pas résisté à la tentation, étant très snob, d'aller à la première à Septivkar, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc, il nous présentera cet opéra. Et alors, cet après-midi, nous allons avoir les interventions des anthropologues qui, pour les deux premières, travaillent sur les questions religieuses aujourd'hui chez les commis. Et Hartlett nous parlera du versant orthodoxe et Piretkosa nous parlera du versant protestant, parce que oui, les protestants sont de plus en plus actifs en Russie et ils pénètrent jusque dans les villages et c'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer en tout cas aujourd'hui, et qui a son incidence sur la vie locale. Et nous terminerons par l'intervention de Janik. Janik, qui vient de faire des travaux de terrain en pays commis, avec Eva-Lisa Hort, qui elle n'a pas pu venir ici, et elles nous parleront de leurs travaux de terrain, et plus précisément de leurs recherches sur les jeunes commis, puisque c'était le sujet de leurs travaux de terrain. Alors, je crois que nous pouvons commencer et je passe la parole donc à Imre Kietz, qui est chercheur au Musée national estonien, auteur du film que certains d'entre vous ont vu hier soir et dont j'ai un exemplaire, ce qui fait que si ceux qui ne l'ont pas vu hier soir ont envie de le voir, eh bien, ils n'ont qu'à s'adresser à moi. Imre, à toi.
Bonjour tout le monde, je parle en estonien parce que mon français est bien faible.
Oui, peut-être je... Oui, attends, pour l'instant. Peut-être je précise sur l'organisation des choses. Plutôt que d'avoir un colloque exclusivement en anglais, on ne sait jamais si tout le monde comprend l'anglais ou pas... si c'était simplement un colloque scientifique, on pourrait se le permettre, mais bon, nous avons l'objectif d'être ouvert. Donc, tout simplement, nous allons permettre à chacun de parler sa langue, on s'est toujours mieux dans sa langue. Et puis, nous avons le concours de Kalki Sark et de Heidi Klima, qui sont étudiantes à l'ESIT, donc font leurs études d'interprète, et qui ont la gentillesse de nous apporter leur concours bénévole. C'est une très grande aide, aussi bien pour traduire ce qui se dit en français aux Estoniens qui ne comprennent pas le français, que pour traduire donc, les interventions en estonien en consécutive. Donc ceux d'entre vous qui comprennent l'estonien se feront plaisir à écouter l'estonien et à confirmer leur interprétation des choses sur la base de la traduction française que Kalp fera pour Indrek.
Nii et alustuseks ma tahaksin teile siis meenutada, et komid jagunevad kaheks suuremaks rühmaks. Ühelt poolt siis permikomid, keda tänapäeval on umbes 125,000 ja teiselt siis sürjakomid, keda tänapäeval on umbes 300,000. Ja sürjakomidel on siis tänapäeval Venemaa Föderatsiooni koosseisus oma vabariik, komi vabariik, mille pealin on Sõktõvkaar. Käesolevas ettekandes tuleb juttu sellest, kuidas sai sürjakomi murretest kohalik riigikeel komimaal. Ja ettekande lõpuosas ma peatun lühidalt ka sellel, milline on olnud sürjakomi keele käekäik peale teist maailmasõda. Kuna minu ettekanne on siin esimene, siis ma tegin ta sellise küllaltki üldise ja ta oleks siis nagu omamoodi sissejuhatuseks meie tänasele päevale.
Donc je vais vous rappeler que les commis sont divisés dans deux grands groupes principaux. D'abord, il y a les commis permis qui sont à peu près 125 000 aujourd'hui. Et d'autre côté, il y a des commis syriennes qui sont 300 000 et qui ont leur propre république commis au sein de la Fédération de Russie. La capitale de la République des commis est Sıktıvkar. Dans le discours d'aujourd'hui, je vais vous parler comment le dialecte syrien est devenu une langue officielle. Et à la fin de mon discours, je vais vous donner un petit aperçu quel était le développement de cette langue après la Deuxième Guerre mondiale. Vu que je suis le premier à parler, je voudrais vous donner un petit aperçu général. Comme ça, ça vous met à l'aise dans le sujet.
Esmalt tuleb siis juttu komidest tsaariaja lõpul. 19. sajandil ja 20. sajandi algul. 19. sajandil asutasid sürjanid Venemaa Euroopa osa piirdenurgas territooriumi, mis pole palju väiksem tänapäeva Prantsusmaast. Ent see territoorium oli üsna hõredalt asustatud. 19. sajandi lõpul elas Vene impeeriumis umbes 150,000 sürjakomi. Tollased sürjanid olid valdavalt kirja oskamatud talupojad, kes kõnelesid erinevaid murdeid. Ametlikus keeleks komide asualal oli vene keel. Vene keeles toimus kogu ametlik asjaajamine, vene keelsed olid kohtud, kirikud ja koolid. Komi keelel polnud tollal mingit ametlikku staatust, ent kuna suur osa komisid vene keelt ei osanud, siis tuli komi murdeid siiski mõnevõrra kasutada. Nii võidi koolis esimesel õppeaastal komi keelt kasutada, kui õpetaja seda keelt oskas. Samuti tõlgiti komi keelde mitmeid ametlikke teadaandeid. Komikeelne kirjasõna oli tollal üsna napp. Komi päritolu vaimulikud olid komi keelde tõlkinud pisut vaimulikku kirjandust. Õpetlased olid koostanud esimesed sõnaraamatud ja grammatikad, aga ühtset komi kirjakeelt tollal veel ei olnud ja ka kirjasõnas kasutati erinevaid murdeid. Tollane haritud vene avalikus oli üldiselt seda meelt, et sürjanid sulanduvad peagi vene rahva hulka ja et komi keel kaob. Sellel oli suunatud ka tollane Venemaa rahvuspoliitika, niivõrd kui see üldse sürjakomisid tähele pani.
Maintenant, je vais vous parler de la situation des commis à la fin de l'époque tsariste. Au XIXe siècle, les commis se sont installés sur le territoire nord-est, la partie européenne de la Russie. Ce territoire est à peu près la même taille que la France d'aujourd'hui, mais la densité de la population était beaucoup moindre. À la fin du XIXe siècle, il y avait à peu près 150 000 commis sur le territoire russe. Les Syriennes de cette époque-là étaient des paysans illettrés qui parlaient de dialectes différents. La langue officielle sur le territoire commis était le russe. Toute la démarche officielle, toutes les cours, les églises et les écoles étaient en russe. La langue commis n'avait aucun statut officiel à cette époque-là, mais vu que la plupart des commis ne parlaient pas russe, il fallait quand même utiliser cette langue. C'est pour cela que pendant la première année scolaire, les enfants avaient le droit de parler komi à l'école, à condition bien sûr que l'enseignant parlait komi. Plusieurs annonces officielles étaient aussi traduites en komi. La littérature en komi n'était pas vraiment répandue. Il y avait quelques hommes religieux qui avaient traduit des textes sacrés en komi. Les intellectuels avaient produit des premiers dictionnaires et grammaires en komi. Une langue littéraire commune, komi, n'existait pas. On utilisait différents dialectes dans la langue écrite. L'intelligentsia russe de cette époque-là pensait que les komi seront bientôt assimilés dans le peuple russe et la langue komi allait disparaître. La politique nationale de la Russie tsariste était de même avis, même s'il faisait très peu attention aux komi.
Ent 19. Sajandi keskpaigas kerkisid esile esimesed rahvuslikult mõtlevad komi haritlased. Eelkõige Georgi Lõtkin ja Ivan Kuratov, kellest tuleb siin veel ka juttu täna. Nemad ei olnud valmis oma emakeele kadumisega leppima ning asusid selle säilimise nimel tegutsema. Oma komikeelsete luuletustega üritasid nad panna alust komi ilukirjandusele. Avaldada oli need luuletusi tollal väga keeruline, sest saari võim pidas komikeelset ilukirjandust tarbetuks. Mõned Kuratovi luuletused avaldati venekeelses ajalehes folkloori vähe. Enamik jäi aga avaldamata ja unustusse ning avastati taas alles 1920-30. Aastatel. Komikeelset ajakirjandust tollal ei eksisteerinud. Komikeelse kirjasena peamiseks legaalseks eksisteerimisvormiks oli õigeusklik vaimulik kirjandus. Georgi Lõtkin kasutas seda kanalit üpris edukalt komikirjakeele arendamiseks. Vabal ajal tõlkis ta vaimuliku kirjandust komikeelde ning suur osa sellest anti ka kirikuvõimude heakskiidul välja. Lõtkin käsitles Sürja ja Permikomi murdeid ühtse komikeelena ning tema kaugemaks eesmärgiks oli ühtse komikirjakeele loomine. Saarivõimud tema eesmärki muidugi ei jaganud ning tema püüded levitada oma raamatuid ja ideid komikoolides põrkusid haridusministeeriumi vastuseisule. Rahvuslikult mõtlevate komi haritlaste uue põlvkonna jaoks olid aga Lõtkini ja Kuratovi tööd, nende vaimne pärand, väga olulised.
Mais au milieu du 19e siècle, c'était des premiers commis avec une pensée plutôt nationale qui sont apparus, surtout Georgi Lõtkin et Ivan Kuratov, dont on va parler aussi plus tard. Ils n'étaient pas prêts à accepter le fait qu'on allait oublier leur langue maternelle et ils voulaient agir pour que cela ne soit pas le cas. Ils ont commencé à écrire des poèmes en komi et ainsi ils ont fondé la littérature komi. Il était très difficile de faire publier ces poèmes vu que le pouvoir tsariste pensait que la littérature komi était inutile. Quelques poèmes de Kuratov étaient néanmoins publiés dans un journal russe sous le rubrique folklore. Mais la plupart n'ont pas été publiés et ils étaient tombés à l'oubli jusqu'à les années 1920 et 30. La presse en komi n'existait pas à cette époque-là. Le seul moyen d'existence légale de la langue komi littéraire était la littérature sacrée orthodoxe. Georgi Lõtkin utilisait cette manière pour promouvoir la langue littéraire komi. Pendant son temps libre, il a traduit de la littérature sacrée en komi et c'était publié grâce à l'Église orthodoxe. Selon Lõtkin, les dialectes komi syrienne et komi permiaque faisaient une seule langue komi. Et son but était de créer une langue komi littéraire commune des deux dialectes. Les pouvoirs tsaristes étaient contre lui Et s'il essayait de faire propager des livres, des idées commises, le ministère de l'Éducation s'opposait à cette tentative. Pour l'intelligentsia commis nationale qui est apparue à la prochaine génération, les travaux de Dedekin et Kouratov étaient d'une importance extrême.
Nii, edasi tuleb nüüd juttu siis 1920-ndatest ja 30-ndatest aastatest. Oktoobris 1917 Venemaal võimu haaranud bolševikud vastandasid ennast kõiges vanale režiimile ning see puudutas ka nende rahvuspoliitikat. Saari Venemaad kujutati rahvaste vanglana, kus mitte vene rahvaid oli julmalt alla surutud ja venestada üritatud. Seetõttu olid paljud mittevene rahvad, seal hulgas ka komid, bolševika arvates arengus venelastest tublisti maha jäänud ning uue võimu asi oli see mahajäämus kiiresti likvideerida. Juhtivad bolševikud, nagu Lenin ja Stalin, olid seisukohal, et kõige paremini saab mittevenelaste majanduslikku ja kultuurilist mahajäämust likvideerida, kaasates selleks nende endi seast pärinevaid haritlasi ning kasutades kohalike keeli. Mittevenelastele jagati välja autonoomsed rahvusterritooriumid. Komi sulgudes Sürjani autonoomne oblast loodi augustis 1921. Suur osa rahvuslikult mõtlevatest komi haritlastest läks bolševikega kaasa, sest nägi selles võimalust realiseerida nii oma sotsiaalseid kui ka rahvuslikke püüdlusi. Tekkis väga aktiivne rühm komi rahvuskommuniste ning esialgu 1920. aastatel võisid komi keele ja rahvusliku kultuuri arendamisel osaleda ka saareaegse taustaga parteitud haritlased. Kodusõja järgne aeg oli üpris vaene aeg. Ent komi haritlaskond töötas tollal oma väikese rahva ja keele arendamisel väga suure entusiasmiga ja üsna tõhusalt. Vassili Molotsovi juhtimisel loodi kiiresti ühtne kirjakeel, mis baseerus peamiselt kirillitsal, ent milles kasutati ka päris palju ladina tähti. See on nii nimetatud Molotsovi tähestik. Kohe anti välja terve rida õpikuid ning algkoolides sai õppekeeleks komikeel. Kõrgemate koolide komikeelele üleviimine oli vaevalisem ning võttis rohkem aega, sest vajalikust õpetajate kaadrist oli nappus. Ilmus komikeelne ajakirjandus, komikeelsed ajalehed ja ajakirjad ning komikirjanikud asusid aktiivselt looma komikeelset ilukirjandust. Sündis ka komikeelne teater.
Maintenant, je vais vous parler des années 20 et 30 dans la République Komi. En octobre 1917, c'était les bolcheviks qui ont pris pouvoir en Russie. Et ils s'opposaient à l'ancien régime dans tout, aussi dans la politique nationale. Ils pensaient que la Russie tsariste avait été une prison pour le petit peuple, où le peuple non russe était soumis et on avait essayé de le russifier. C'est pour cela que plusieurs peuples non russes étaient considérés comme moins développés et les bolcheviks voulaient réduire cette différence entre le petit peuple et le peuple russe. Les bolcheviks en tête, comme Lénine et Staline, pensaient que pour réduire cette différence économique et culturelle entre les petits peuples non russes et les russes, était d'engager des intellectuels de ces petits peuples et d'utiliser des langues locaux. On a distribué des territoires autonomes pour les peuples. C'est pour cela qu'en août 1921, l'oblast autonome de Komi syrienne est née. La plupart des intellectuels Komi nationaux étaient d'accord avec les bolcheviks parce qu'ils ont vu la possibilité de réaliser leurs buts sociaux et nationaux de cette manière-là. Il t'est apparu un groupe de communistes nationaux très actifs qui, dans les années 20, engageaient même des commis qui avaient travaillé pendant l'époque tsariste et qui n'appartenaient pas au Parti communiste. L'époque d'après-guerre civile en Russie était assez pauvre, mais ce groupe des intellectuels travaillaient avec beaucoup d'envergure et ils ont fait beaucoup pour développer leur langue et leur peuple. Sous la direction de Vassili Molotsov, ils avaient créé une langue littéraire commune qui basait sur le cyrillique, mais qui utilisait aussi quelques lettres de l'alphabet latin. On appelle ça l'alphabet Molotsov. On a publié tout de suite beaucoup de manuels, et dans les écoles primaires, c'est la langue komi qui est devenue la langue officielle. Pour rendre le niveau supérieur d'enseignement en komi, ça a pris beaucoup plus de temps et de la peine, vu qu'il manquait des enseignants qui parlaient komi. La presse en komi est apparue. Les journaux, les magazines et les écrivains komi ont commencé à propager, à créer de la littérature en komi. Le théâtre en komi est né.
1920. aastal moodustasid komid 92% oma autonoomse territooriumi elanikkonnast. Komi keelel oli komi autonoomses oblastis ametlik staatus, kõrvuti vene keelega. 20. aastate teisel poolel viidi põhiliselt läbi ka kohaliku administratsiooni sürjaniseerimine. See olnud lihtne ülesanne, ehkki valdav enamik kohalikest võimukandjatest ja ametnikest olid komid. Probleemiks oli see, et komikeelne kirjaoskus polnud elanikkonna seas juurdunud ning saare ajal hariduse saanud inimesed olid kirjaoskajad ainult vene keeles. Komikeele kui kirjakeele juurutamine oli tollal siiski Moskvas asuvate keskvõimude ametlik poliitika. Seda tähistatakse terminiga korenisaatsia vene keeles. Ja seda poliitikat toetasid ka kohalikud rahvuskommunistid. Nii suudeti mitmesuguste keelekursuste ja abimaterjalidega saavutada see, et komikeelseks muudeti kohus, prokuratuur, miilits ning kohalikud esindus- ja täitevõimuorganid. Tänapäeva komidele tundub see üsna kättesaamatuna kõik. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 20. ja 30. aastatel funksioneeris komikeel kohaliku ametliku keelena pea kõikides esmastes eluvaldkondades.
Les komis représentaient 92% de la population qui habitait sur le territoire autonome de komi en 1926. Leur langue komi avait le statut d'une langue officielle sur ce territoire, avec la langue russe. À la deuxième moitié des années 1930, on a rendu l'administration en komi syrienne. Ce n'était pas une tâche facile, même si la plupart des représentants du pouvoir et des fonctionnaires étaient des komis. Le problème était que la population n'avait pas encore l'habitude d'écrire en komi. Et elles avaient obtenu leur éducation pendant l'époque tsariste. Cela veut dire qu'ils savaient très bien écrire, s'étaient habitués à écrire en russe. Mais c'était la politique officielle du pouvoir central à Moscou de propager la langue littérature komi. On appelait ça korenitsatsia en russe.
La politique d'indigénisation.
D'accord. La politique d'indigénisation. Et les communistes nationaux locaux ont soutenu cette politique aussi. C'est pour cela qu'ils ont fait plusieurs cours de langue, ils ont publié des matériaux linguistiques pour rendre la cour, la milice et le pouvoir représentatif et exécutif en commis. Pour les commis d'aujourd'hui, cela peut paraître une vraie utopie. Et on peut dire que dans les années 1920 et 30, la langue commis fonctionnait, marchait très bien comme une langue officielle dans la plupart des domaines de la vie quotidienne.
1930-aastate lõpupoole muutus aga poliitiline kliima Nõukogude Liidus komi rahvuskommunistide jaoks ebasoodsaks. Ning 1930-aastate lõpul tabas komi rahvuslikku haritlaskonda repressioonide laine. Paljud varem juhtivatel kohtadel olnud rahvuskommunistid, aga ka komi kirjanikud ja õpetajad hukkusid kulaagis. Üldiselt senine rahvus- ja keelepoliitika siiski esialgu jätkus. Komi keel püsis õppekeelena koolides, eeskätt algkoolides, ning komikeelseid raamatuid anti välja tänasega võrreldes suhteliselt palju. 1936. aastal tõsteti komide autonoomia taset. Komi autonoomsest oblastist sai autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Seda olid komi rahvuskommunistid juba ammu soovinud. Kuid selle autonoomse Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi konstitutsioonis, mis võeti vastu 1937. aastal, ei mainitud komi keelt enam ametliku keelena. Ometi tema senised funktsioonid põhijoonesel esialgu säilisid. Komi keele juurdumist kirjakeelena takistasid 30. aastatel läbi viidud tähestiku reformid. Algul mindi kampaania korras üle ladina tähestikule ning siis mõni aasta hiljem kirillitsale. Tähestiku reformid puudutasid ka teisi Venemaa mitte vene rahvaid. Ja nad olid siis nagu algatus nende reformide läbiviimiseks tuli Moskvast. Järskude tähestiku muutustega muutusid kasutuks seni välja antud raamatud, õpikud ja neid hävitati massiliselt 30. lõpul.
Dans les années 30, le climat politique de l'Union soviétique est devenu moins favorable pour les communistes nationaux commis. Et à la deuxième moitié des années 30, l'intelligentsia nationale commis s'est vue frappée par une vague de répression. Plusieurs communistes nationaux ainsi que des écrivains et des enseignants étaient envoyés à Goulag où ils ont péri. La politique nationale et linguistique de la langue komi continuait néanmoins pour une certaine époque. Elle restait comme langue officielle dans les écoles, surtout dans les écoles primaires, et on a publié encore beaucoup assez de livres en komi, surtout si on le compare avec le niveau d'aujourd'hui. Le niveau d'autonomie des komis s'est vu élevé dans les années 1936. On a fondé la République socialiste soviétique autonome des komis. C'était juste ce que les communistes nationaux avaient souhaité depuis longtemps. Mais dans la constitution de la République socialiste soviétique autonome des komis, ils n'avaient pas mentionné la langue komi comme étant la langue nationale. Cette politique était menée mais la langue komi a continué à fonctionner dans différentes sphères de la vie quotidienne que j'ai mentionnées avant. Il y avait plusieurs réformes alphabétiques qui se sont vues jour dans les années 30, ce qui a empêché la langue littéraire komi de prendre pied dans la population. Pendant la première campagne, la langue littéraire komi était écrite en alphabet latin, et puis ils l'ont changé et ils ont commencé à l'écrire en alphabet cyrillique. C'était le même cas dans d'autres petites républiques non russes dans la Fédération de Russie. Avec ces changements brusques d'alphabet, tous les livres, les manuels qui avaient été publiés auparavant sont devenus inutiles et ils l'ont détruit.
Lõpetuseks räägiksin siis veel lühidalt sellest, milline on olnud komi keele saatus peale 1930. aastaid. 30. aastate teisest poolest alates toimus komimaa jõuline industrialiseerimine. See tähendas söekaevandusi, metsa- ja paberitööstuse ja naftatööstuse kiiret arendamist, raudteede ehitamist. Kogu selle industrialiseerimisega kaasnes valdavalt venekeelse tööjõu ulatuslik sissevool komimaale. Täna moodustavad komid vaid veerandi omanimelise vabariigi elanikkonnast. 1950. aastate lõpul Nõukogude Liidus läbi viidud haridusreformiga taganeti senisest põhimõttest, mille järgi lapsed pidid saama alghariduse emakeeles. Nüüdseks jäeti koolide õppekeel lapsevanemate otsustada. Ning Nõukogude rahvuspoliitika uute suundade mõjul tõi see kaasa hariduse järgjärgulise ülemineku vene keelele. Tänapäeval on komi keel koolides säilinud ainult õppeainena ja sedagi ei õpi kaugeltki mitte kõik komi lapsed. Ka komikeelne trükiajakirjandus on järgjärgult kokku tõmbunud ja komikeelsete raamatute väljaandmine on sõjaeelse ajaga võrreldes tublisti vähenenud. Komikeele prestiiž on langenud nii kohalike venelaste kui ka komide endi seas. Komi keelel on kõrvuti vene keelega küll riigikeele staatus ka tänases komi vabariigis. Ent see staatus on üsna formaalne ning tegelikult domineerib komimaa avalikus elus vene keel. Paljud tänapäeva komid ei oska komi keelt või oskavad seda kehvasti. Linnatänavatel komi keelt naljalt ei kuule, aga paljudes külades on ta siiski veel säilinud. Igapäeva elu keelena. Tegemist on eelkõige kõne keelega. Kirjakeelena komi keel tänapäeval eriti hästi ei toimi. Komid on harjunud lugema ja kirjutama pigem vene keeles.
À la deuxième moitié des années 30, on a industrialisé le pays des commis. On a construit des industries de charbon, de sylviculture, du papier, de pétrole, et ils ont construit aussi beaucoup de voies ferrées. Avec cela, il y avait une grande immigration de main-d'œuvre russophone. Aujourd'hui, les commis ne représentent qu'un quart de la population de leur propre république. À la fin des années 50, l'Union soviétique a mené une réforme de l'éducation et on n'était plus obligé de donner l'éducation primaire aux enfants dans leur propre langue maternelle. À partir de ce moment-là, c'était aux parents de décider s'ils voulaient que que leurs enfants soient enseignés en commis. En plus, la politique nationale de l'Union soviétique a influencé cette tendance et l'éducation est devenue progressivement complètement en russe. Aujourd'hui, la langue commis dans les écoles n'est qu'une matière et tous les enfants commis ne l'apprennent pas. La presse commis est devenue moins répandue et on publie de moins en moins de livres en commis. Le prestige de la langue commis a beaucoup baissé parmi les russophones et parmi les commis eux-mêmes. La langue komi a toujours le statut d'une langue officielle avec le russe dans la République komi d'aujourd'hui, mais il s'agit plutôt d'un statut formel. Et dans la vie quotidienne, c'est dans la vie formelle, dans la vie publique, c'est toujours le russe qui domine. Les komi d'aujourd'hui ne savent pas, ne parlent pas komi ou le parlent mal. On n'entend pas parler komi dans la rue, mais dans quelques villages, on l'utilise quand même pour au quotidien. Il s'agit surtout de la langue parlée. Étant la langue komi ne marche pas très bien comme une langue littéraire. Les komi sont habitués à lire et à écrire en russe.
Merci pour votre attention.
Merci Ingrid, de ces introductions à la langue komi. Une question à poser.
Oui, bonjour, Madame. Vous avez parlé de l'industrialisation de son rôle dans la russification. Et vous n'avez pas mentionné la question du goulag. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus. Ici, nous sommes chez les Estoniens, nous savons tous que la Poste, par exemple, c'est au pays komi qui se trouvait, n'est-ce pas?
Nojah, kõigest ei jõua rääkida siin lühikeses ettekandes. On tõesti õige, et suur osa sellest industrialiseerimisest, eriti 30. Lõpul ja 40. 50. Viidi läbi sunnitööliste kaasabil. See on täiesti õige.
Oui, je n'avais pas le temps de parler de tout et il est tout à fait vrai que cette industrialisation qui a eu lieu à la fin des années 30 pendant les années 40 et 50 était fait grâce aux travailleurs forcés qui étaient au goulag.
Et à partir de quelle année le goulag s'est-il implanté
No, ma ei oska nii täpselt öelda. Ilmselt võib juba rääkida 20. Mingitest vangilaagritest. Aga no põhiliselt ikkagi see gulaagi süsteem komimaal seati sisse 30. Teisel poolel.
Je saurais pas dire exactement. J'imagine qu'il y avait peut-être les premiers signes des goulags dans les années 20. Mais pour la plupart des goulags s'était installé dans la République komi à la deuxième moitié des années 30.
Il y a eu un premier camp ouvert en 1921 sur la Sibérie. Et ensuite, effectivement, c'est surtout dans les années 30. Ils ont commencé à construire des camps d'abord pour exploiter les minerais.
Les gisements de pétrole dans la région.
À mesure qu'ils construisaient la voie ferrée, de plus en plus loin vers le nord qui était
No komi folkloor loomulikult eksisteerib. Ehkki ütleme, et saariaegses venekeelses kirjasõnas sageli väidati, et komidel ei ole oma folkloori, et nad on kõik ainult venelastelt üle võtnud. Tegelikkuses loomulikult on komidel oma folkloor ja seda on ka päris palju publiseeritud. Juba saari ajal alustati selle publiseerimisega ja nõukogude ajal on sellega jätkatud.
Bien sûr, il existe le folklore komi, même si pendant l'époque tsariste, il s'essayait de dire que cela n'existe pas, que tout ce qu'il savait était repris de la culture russe. Mais bien sûr, cela existe et on a même publié un grand nombre de ses œuvres. Et on a commencé de les publier pendant l'époque tsariste et on a continué pendant l'Union soviétique.
Je voudrais relever quelques remarques intéressantes sur le statut de la langue dans la vie quotidienne, le rapport entre le statut officiel et l'usage. Il m'a dit qu'on parle plus dans la rue, qu'on parle plus dans les villages, mais les personnes pas dans la rue. Moi, j'ai entendu parler commis dans la rue par hasard, des gens qui sont passés. Des gens qui parlaient très fort, comme dans le téléphone. Donc, si j'ai l'impression que ça.
C'était marrant, mais là, c'est en tout cas la même chose.
No, ma olen käinud mõlemas nüüd üsna hiljuti, nii Kudemkaaris, on siis Permi komitee pealinn, kui ka Sõktõhkaaris. Sõktõhkaar on ikkagi valdavalt Vene linn. Seal on küll komisid, aga nad moodustavad võib-olla 20% heal juhul seal elanikkonnast. Kudemkaaris moodustavad Permi komitee enamuse. Ja ehkki Permi komitee rahvuslik identiteet on palju nõrgem kui Sürja komitee. Ikkagi Kudemkaaris on üsna tavaline, et sa kuuled tänaval komikeel. Sõktõhkaaris kuuled seda harva. Inimesed lihtsalt häbenevad oma keelt tänaval avalikult rääkida. Sest nad on nõukogude ajal juba, eks ole, võib-olla ka tänaval tuleb seda ette. Kui nad hakkavad kuskil avalikus kohas, näiteks poes või bussis rääkima komi keelt, siis nad võivad sellest sõimata saada. Venelased hakkavad neid sõima, mida te räägite sinna oma muulaste keelt. Rääkiga normaalset keelt. Seetõttu nad ei taha nagu seda eriti rääkida.
Je me suis rendu dernièrement à Kudomkar et Sõktõhkaar, de Kudomkar qui est à la partie de Komi Permik. Sõktõhkaar est surtout une ville russe, il y a seulement une population qui s'élève jusqu'à 20% des Komi. À Kudomkar, on entend beaucoup parlaient commis dans la rue, même si les commis permiaques ont une identité nationale beaucoup plus faible que celle de Syriane. Mais parfois, les commis syriennes ont honte de parler leur langue dans la rue. C'était vrai pendant l'époque soviétique, mais c'est aussi vrai aujourd'hui. Par exemple, s'ils commencent à parler commis dans les magasins ou dans le bus, il se peut que les Russes commencent à l'insulter et dire « Arrêtez de parler votre petite langue. Ici, il faut parler une langue normale. » Donc c'est pour cela qu'on n'entend pas souvent la langue commis dans les rues. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus. si on considère que 20% de la population de Syktyvkar sont des commis, dans le contexte de la Russie, cela n'est pas mal du tout. C'était parce que pendant l'époque tsariste, c'était déjà un centre régional où il y avait beaucoup de commis. Ce n'était pas une ville qui était créée pour être la capitale de la République commis ou une ville industrialisée qui était transformée en capitale. Non, c'était né comme une ville des commis. Et si on le considère, si on pense qu'il y a d'autres républiques autochtones avec d'autres peuples finno-ougriens, la situation dans leur capitale peut être complètement différente.
Et justement, à propos de ces statistiques, je pense qu'il faut nuancer ces fameux 20% de recensement de 2002. C'est-à-dire que 20% de la population de la République s'est affirmé, se définit comme commis. Par expérience, je n'ai pas fait de démarche systématique ou d'enquête pour établir les propres statistiques, mais j'ai l'impression que j'ai eu en discutant avec des gens de différents milieux, notamment des gens intéressés par les questions pinot-maliennes ou par l'éducation nationale, en rencontrant des Russes, qui étaient des amis d'amis russes, etc., et qui étaient des amis, très souvent, je me suis rendu compte que les Russes en question comprenaient commis.
Mettre en perspective ce que dit Sébastien. Je crois que Sébastien se trouve dans une position très particulière et en contact avec la Russie. C'est que voilà quelqu'un qui est plus à l'aise en commis qu'en russe. Et ça, c'est très rare avec l'étranger. Donc, il se trouve dans des milieux où de gens qui se disent russes, mais qui ne peuvent pas communiquer en russe avec lui. Et la seule langue de communication est le et alors apparaît cette réalité extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, en pratique, mis en situation de communication, peuvent utiliser le commis. Même s'ils ne diront jamais dans les statistiques, ils parlent de commis. Mais l'expérience de Sébastien, ils ont envie de parler avec un Français, et que, malgré tout, il y a plus de commis qui n'apparaît dans les chiffres officiels. Mais pour découvrir ceci, il faut un révélateur. Et je trouve que ta position excessivement rare, parce que je ne connais personne d'autre aille dans cet endroit-là sans connaître le russe.
Immigrants involontaires dont beaucoup ne sont pas retournés dans leur région d'origine.
Quand vous êtes au Uruguay pendant 10-15 ans,
vous restez, et on a la même situation en Sibérie, on connaît ça, les anciens prisonniers, leurs anciens bourreaux.
Alors, une deuxième remarque que je voulais faire concernant cette histoire,
met en place en Suisse belgo-belge. Moi, je suis belgo-belge, français et allemand. Donc, c'est pour vous dire que je peux comparer dans plusieurs langues. Et je peux vous dire ceci, effectivement, un belge est un wallon. Si on lui parle en français, et effectivement, il devient un flamand. Si on lui parle en flamand, même après 70 ans de guerre linguistique, il y a toujours des gens qui ne déclarent pas qu'ils sont flamands. Et
il y a
des raisons diverses, la politesse, la politesse est une vertu nationale là-bas, autrement il y aurait une guerre depuis longtemps. Ou bien sentiment d'infériorité déguisé en sentiment de supériorité, c'est très subtil, ils ne vont pas déclarer qu'ils sont flamands. Mais finalement, je crois qu'une enquête linguistique doit absolument se faire autour de Pierre là-bas, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain temps que la situation est horriblement complexe, que des gens qu'on avait francophones étaient finalement néerlandophones. Comme ça, Bruxelles n'est pas une ville d'ailleurs, Bruxelles c'est 23 communes, il faut comprendre. Alors, cela me rappelle la situation que j'ai vécue en Alsace. L'Alsacien, on est au cœur du problème psychologique. L'Alsacien ne veut absolument pas dire qu'il sait parler allemand. Les Français lui font dire qu'il parle alsacien quand il parle quelque chose qui n'est pas français. L'Alsacien n'existe pas, il y a plusieurs dialectes, plusieurs grosses tendances dans l'Alsacien. Il doit démontrer absolument qu'il est français. Il est plus français que les Français, c'est vraiment une maladie sociale. Alors on peut faire l'expérience, je vous conseille d'aller au musée, à un musée de voitures à Colmar. On reçoit des flopés de Français moyens qui n'ont jamais entendu dire parler quelque chose sur de l'allemand en Alsace. Parce qu'il y a des groupes qui va expliquer l'interprète qui est complètement francisé. On ne le distingue pas. Moi, j'ai été dans l'immobilier pendant longtemps, je perdais des clients quand ils étaient alsaciens, et pour leur faire plaisir, je leur parlais en code bossois de l'autre côté du Rhin, j'avais appris ce code bossois. Et aussitôt, ils étaient pris en flagrant délit de non-francité totale, On est donc dans des situations particulièrement difficiles. Qui parle quoi, quand? Et effectivement, il faut donner M. Cagnoli pour faire toutes les enquêtes linguistiques là-bas pour envoyer des gens qui ne savent pas le russe. Et on, je pense qu'on va avoir un portrait complètement
Europa, Ungheria, Slovakia,
moi je dirais, je peux considérer qu'à partir du moment où les populations interplanétaires
Nous
entendons en Roumanie quelle langue qu'il parlait. Il s'avère qu'il y avait à peu près 2 millions de personnes qui disaient que c'était la première langue officielle maternelle, et il y avait 2 600 000 qui disaient qu'il parlait le hongrois.
Je pense qu'on enchaîne avec la parole à Marina.
Je vais la parole à Marina Fedina alors.